Merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour ce temps de prière et de louange. Vous avez un âge moyen très intéressant au niveau de l'équipe de louange. C'est un privilège pour une église d'avoir des personnes jeunes, très engagées. Ça m'a fait plaisir de voir cela. Donc, avec Esther, nous venons en voisin. André vient de le dire. J'enseigne donc à la faculté de Vaux-sur-Seine. Vous faites partie de ces églises privilégiées qui sont à moins d'une demi-heure de la faculté de Vaux. Et donc, pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances théologiques, sachez qu'on a plusieurs programmes. On a des programmes évidemment pour des personnes qui se préparent à devenir pasteur à plein temps ou pasteur implanteur. Comme Kevin que vous allez recevoir, mais nous avons aussi un tas de programmes et de cours qui sont ouverts à toute personne qui veut venir une journée par semaine, par exemple, ou prendre des vacances et venir, comme ça va être le cas dans quelques jours, au mois de février, pour une ou deux semaines, pour des cours compacts où on apprend plein de choses. Donc, c'est là aussi que nous habitons. Nous avons notre logement à Vaux, pas sur le campus, mais de l'autre côté du village, après avoir habité longtemps en Picardie. Donc, on est un peu des Picards d'adoption. Ma famille, elle vient plutôt du Jura. Mais on a été plus de 20 ans en Picardie avec des équipes implantées plusieurs églises. Et c'est effectivement ça, notre ministère pastoral à la base. Mais ça fait longtemps que je suis plutôt dans l'accompagnement et dans le conseil de collaborateurs plus jeunes. C'est pour moi un privilège. André a rappelé un peu l'origine, ou au moins une étape importante de cette union d'églises qui s'appelait à l'époque France Mission, qui était vraiment effectivement très concentrée sur la Bretagne d'un côté, mais aussi sur Paris. Cette union d'églises qui aujourd'hui s'appelle Perspective, avec à peu près 80 églises locales en France. Et c'est vrai qu'à l'époque, on insistait beaucoup sur le fait que l'évangile n'était pas une affaire uniquement privée, en quelque sorte, mais qu'en se convertissant, nous devenons des co-ouvriers avec Dieu et nous avons le privilège de pouvoir partager cela avec les autres. Cependant, on ne peut plus du tout le faire de la même manière que dans les années 80. Et ça peut être assez déroutant. Comment réunir ces deux idées? D'une part, l'idée que l'évangile est un message permanent, stable, que l'amour de Dieu est éternel. Comment réunir cette idée d'une stabilité autour du message de Jésus-Christ, qui est le cœur de notre foi, avec l'idée que le monde change énormément? Et c'est assez déroutant. J'ai le privilège de visiter beaucoup d'églises et je vois que les réactions peuvent être assez diverses et que beaucoup d'églises évangéliques actuellement en France sont très déstabilisées. Parce qu'on voit que en voulant annoncer l'évangile, si on fait la même chose qu'il y a 30 ou 40 ans, ça ne produit quasiment plus de fruits. Les gens ne comprennent même pas de quoi on veut parler. C'est d'ailleurs pas comme ça dans le monde entier. Là, il faut bien se rendre à l'évidence que Dieu nous a placés dans un pays qui est, comme on dit, post-chrétien. Et donc, il ne s'agit pas de mettre en cause, loin de là, la pertinence de l'évangile. Je crois même que l'évangile est aujourd'hui plus pertinent que jamais. L'homme moderne a besoin de l'évangile. Mais il s'agit d'avoir la lucidité de dire on ne peut plus annoncer l'évangile de la même manière parce que les présuppositions ne sont pas les mêmes. Il y a 40 ans, pour beaucoup de gens, c'était quand même quelque part une évidence que Dieu existe. Voilà, on ne le connaissait pas forcément, on avait entendu parler de lui, on allait de temps en temps peut-être dans une église, on faisait baptiser les enfants, on avait hérité une Bible de la grand-mère, mais donc on n'était pas très directement concerné, mais on ne mettait pas trop en cause tout cela. Et à l'époque aussi, les lois de la République correspondaient très largement aux lois de la Bible, aux 10 commandements. 40 ans plus tard, et on est, je pense, ceux qui ont un certain âge sont surpris que c'est allé si vite. On est entré dans un monde qu'on peut qualifier de post-chrétien ou de néo-païen, comme le disent certains sociologues et philosophes. C'est allé très très vite. Et notre génération, elle est prise dans un virage inouï. La chrétienté, c'est-à-dire ce que je viens de décrire, où tout le monde avait une vague foi en Dieu et trouvait ça assez plausible, la foi chrétienne, sans y adhérer forcément avec le cœur, hein. C'est pour ça que c'était bien d'évangéliser et d'aller un peu secouer les gens. Mais ce modèle-là, il est aujourd'hui déjà loin derrière nous. Mais il a tenu pendant 16 siècles. Et beaucoup de nos églises étaient habituées à évangéliser en étant dans ce cadre-là qui a tenu pendant 16 siècles. Et évangéliser voulait donc souvent dire confronter les gens directement avec l'œuvre de Jésus. Jésus est mort pour toi, il est ressuscité. Donc, ce qui est tout à fait au cœur de l'évangile. Mais si vous dites cela aujourd'hui d'emblée à quelqu'un qui n'est plus du tout dans le cadre de la chrétienté, en général, ça tombe à plat et les gens ne se convertissent plus. Et donc, c'est pour ça que j'apprécie que vous ayez ici, dans cette église, cette réflexion de dire, on ne met absolument pas en cause la pertinence de l'évangile. Au contraire, on est plus convaincu que jamais que l'évangile est le message dont l'homme moderne a besoin. Mais nous réfléchissons comment créer des ponts pour que ce message si précieux ne tombe pas par terre inutilement, mais qu'il puisse être accessible, que les cœurs s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent et que ainsi nous puissions véritablement être des témoins de ce que le Seigneur nous a donné. C'est pour ça que j'ai choisi pour ce moment, pour ce matin, pour ces quelques minutes de méditation de la parole de Dieu, ce thème « Rendre Jésus visible ». En fait, c'est ça au cœur d'une église missionnelle, qui veut être une mission pour que l'évangile se répande partout. C'est être conscient que dans les différentes cultures, il faut trouver les voies pour rendre Jésus visible. Justement, en France, il y a 40 ans, on pouvait aller dans la rue, Paris Nation, et distribuer des tracts, etc. Si vous faites la même chose aujourd'hui, probablement vous verrez quasiment pas de fruits. La situation actuelle, elle est très différente en France métropolitaine par rapport au Drôme-Côme. La situation est très différente entre la France métropolitaine et le Brésil, ou le Congo, ou la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut accepter le fait qu'on n'est pas dans un système universel, mais que le peuple au milieu duquel le Seigneur nous a placés est actuellement dans une phase, et nous le déplorons, dans une phase donc de sécularisme, de post-sécularisme et donc de néo-paganisme. Mais ça ne doit pas nous faire douter quant à la pertinence de l'Évangile. Mais je crois que nos contemporains, ils ont besoin de voir Jésus, parce que j'imagine que c'est la même chose pour vous comme pour Esther et pour moi. Nos amis non chrétiens ou pas encore chrétiens, ben, ils ont un peu cette question-là. Certains l'expriment, d'autres l'expriment pas. Mais où est Dieu, hein? Voilà, c'est Dieu. Vous semblez y croire, vous, mais nous on le voit pas, hein? Voilà. Et d'ailleurs, s'il était là quelque part, le monde serait pas comme il est en Ukraine et ailleurs, hein? Ça vient très vite quand vous discutez avec les gens. Alors, c'est là la bonne question pour nous. Comment rendre Jésus visible, parce que beaucoup de gens se posent cette question, où est Dieu? En Jean 1, 18, nous lisons, Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Ça, c'est la logique biblique. Dieu est tellement grand et puissant et saint que l'être humain ne peut pas le voir. Mais ce Dieu veut être visible. Et donc, il faut bien que quelqu'un le rende visible. Jésus a été envoyé par le Père sur cette terre pour rendre Dieu visible. Parce que Dieu, dans sa bonté, voulait que les gens le connaissent et qu'ils l'entendent. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, homme, dans son incarnation pour rendre Dieu visible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus, quand il a commencé à parler de l'avenir aux disciples, et eux, ils étaient effrayés en disant, je le dis avec mes mots, en disant « mais ça a si bien commencé avec ton royaume qui commence à se développer, et maintenant tu nous dis que tu vas partir auprès du Père ». Voilà, ils étaient inquiets, ils voulaient même, Pierre voulait même le retenir. Pour eux, c'était une espèce de beau rêve qui allait brutalement s'arrêter. Et Jésus leur révèle, et c'est plus tard qu'ils ont mieux compris, que ça n'allait pas du tout s'arrêter, au contraire, que ça allait s'amplifier et atteindre tous les territoires de la terre. Comment ? Par le Saint-Esprit. Jésus dit « Moi, je monte au ciel ». Mais vous n'allez pas rester orphelin, je vais vous donner mon remplaçant, le vicaire, c'est le Saint-Esprit, c'est l'expression biblique. Et donc à partir du moment où quelqu'un devient véritablement chrétien, à partir du moment où il a le Saint-Esprit, il a non seulement l'immense joie du salut et l'espérance éternelle, mais il a aussi reçu un équipement pour rendre Jésus visible. Et je crois que plus que jamais, les temps pas forcément évidents, avec justement ce néo-paganisme, nous poussent à revenir au cœur de notre mission de chrétien. C'est ça, évangéliser. C'est rendre Jésus visible là où je vis. Et je ne pourrais évidemment pas le faire par moi-même, mais je peux le faire à partir du moment où je sais que c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Ce n'est pas par hasard que j'habite dans telle rue, que j'habite dans telle maison, que je suis dans telle famille. Ce n'est pas par hasard que je vis en France métropolitaine en 2023. Tout cela appartient au Seigneur et nous devons nous encourager à dire chacun à sa place, en semaine et pour quelques heures où nous sommes réunis, nous avons vocation à rendre Jésus visible afin que le monde puisse le reconnaître. Justement, personne n'a jamais vu Dieu, c'est le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père qui nous l'a révélé. Et je lis un autre verset en 2 Corinthiens 3, 18, où l'apôtre Paul, par conséquent, dit aux Corinthiens, « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une grandeur dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Donc, nous, on contemple le Seigneur. On est ces privilégiés qui avons vu la révélation de la grâce et de la grandeur de Dieu. Ça commence par là. Ça commence pas par notre mission à nous, comme si on était capable. Ça commence d'abord par le fait que nous, on est vraiment des privilégiés parce qu'on peut voir la grâce et la grandeur de Dieu. Et on voit ça comme dans un miroir. Et cela nous transforme, nous sommes transformés en son image dans une grandeur dont l'éclat ne cesse de grandir. Le chrétien sait bien d'être humble. Hein, et je crois que c'est très souvent pas si difficile que ça parce qu'on est tellement désolé de voir nos limites, nos faiblesses, etc. Mais pourtant, le texte ici parle de grandeur, mais elle ne vient pas de nous. Quand je suis transformé en l'image du Christ, j'ose être pour les autres cette personne qui peut ouvrir les oreilles, les cœurs et les yeux sur la réalité du Seigneur. Nous sommes transformés en son image. Et je crois que c'est d'abord l'enseignement biblique fondamental sur notre mission dans le monde, mais qui est redevenu peut-être plus actuel encore aujourd'hui, parce que nous sommes entourés de gens qui ont justement dans leur cœur, sans forcément l'exprimer à voix haute, mais qui ont dans leur cœur cette question, mais où est Dieu où est Jésus ? Et notre mission, c'est de le rendre visible. Je voudrais maintenant lire avec vous, je vais le projeter, deux versets de la première épître de Pierre, où Pierre parle à des gens qui finalement sont dans une situation analogue à la nôtre. J'ai utilisé le terme de sécularisme et surtout de monde post-chrétien et, ou de néo-paganisme. Et c'est assez étonnant. Je ne sais pas si vous faites la même expérience que moi. Quand je lis le Nouveau Testament par rapport à ces questions-là, j'ai l'impression que notre monde ressemble énormément. Parce que c'était un monde païen dans lequel l'Évangile s'est répandu. Et je trouve, évidemment, il ne faut pas être naïf, je ne nie pas les changements pendant 2000 ans, mais quand même, ça, les mots ont un sens. Et quand on parle de néo-paganisme, il y a des différences, évidemment. Mais c'est vrai que le Nouveau Testament, finalement, nous parle d'une situation qui ressemble beaucoup à la nôtre. C'est le cas ici aussi pour ces personnes. Donc, lisons le texte. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordé. Pierre parle donc ici à des personnes dispersées dans des régions païennes. D'ailleurs, pour que vous n'ayez pas besoin d'essayer de chercher, je résume les régions, les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. En fait, c'est la Turquie d'aujourd'hui. Et donc, l'apôtre Pierre parle à des chrétiens qui se trouvent donc au milieu des païens en Turquie, et il les encourage. Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan. Alors il y a trois expressions que je voudrais relever et courtement commenter. On nous parle ici de ces disciples en terre païenne qui sont d'abord choisis. Ensuite, ils vivent comme des résidents étrangers, c'est ça leur vocation. Et enfin, ils sont dispersés, donc envoyés. Parce que Pierre leur rappelle, si vous êtes dispersés en Turquie, ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui vous a placés là, pour que vous soyez des témoins. Donc, quand on comprend que c'est Dieu qui nous a dispersés, on comprend aussi qu'il nous a envoyés. Et c'est notre situation. Choisis. Vivre comme des résidents étrangers, dispersés et donc envoyés. D'abord, quelques remarques sur le choisi. C'est peut-être la thématique qu'on chante le plus souvent dans nos églises, et on a raison. Et notre culte consacre une grande partie à remercier le Seigneur qu'il s'est révélé à nous et qu'il a fait cette chose inouïe. C'est de nous inviter, de nous appeler à lui, de nous gracier et de nous faire entrer dans sa famille. Et on a raison de nous remémorer cela très, très souvent. D'ailleurs, dans la même épître, en lisant un peu plus loin, je vais vous lire, il écrit Pierre, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Ça, c'est la situation de celui qui a compris qu'il est choisi. Même si les circonstances sont parfois compliquées, il peut être dans la joie parce qu'il a une espérance vivante parce qu'il sait que le Seigneur est avec lui et parce qu'il a un héritage qu'il ne pourra pas se perdre. Donc ça, c'est la première chose que Pierre dit à ces chrétiens dispersés en terre païenne. Vous êtes choisis, réjouissez-vous, et il serait donc normal que le monde voit que nous, on n'est pas plus malin que les autres, mais on a reçu quelque chose d'irremplaçable. Voilà. C'est ça, un choisi, c'est quelqu'un qui n'est pas naïf, il n'est pas toujours en train de sourire en se forçant, pas du tout, mais il est rempli de cette espérance qui fait, qui manque à beaucoup de gens autour de nous. Et c'est d'ailleurs toujours très encourageant pour nous lorsque quelqu'un qui commence à nous connaître nous dit « j'arrive pas à mettre tout à fait les mots dessus, mais je sens que tu as quelque chose ». Voilà, parce qu'ils ont peut-être vu que même si on était au niveau des circonstances avec des larmes, qu'on a quelque chose qui nous porte. On a quelqu'un qui nous porte. Et c'est pour ça que Pierre leur dit « on bénit Dieu le Père de notre Seigneur » parce que tout ça, c'est sa compassion. Et il nous donne un statut incroyablement élevé avec tout cela. Ce n'est pas qu'une question d'individu qui reçoit le pardon et qui reçoit cette espérance éternelle et donc la joie profonde, mais c'est quelque chose aussi qui nous regroupe ensemble. Je prends un autre extrait de cet épître, donc un peu plus loin au chapitre 2, où Pierre, en parlant de ces chrétiens choisis, ils doivent se rappeler qu'ils sont choisis, il leur dit « Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il a fait sien. » On a presque l'impression qu'il cherche les mots hein, pour ne rien louper, pour vraiment décrire que c'est un statut très très complet. On est d'abord une lignée choisie. Dans les traductions plus anciennes, on mettait une race choisie. Et justement, pour montrer qu'on est une seule race, on est une lignée choisie. En fait, on fait partie de la famille. On est la génération de Dieu. Vous êtes la lignée choisie. C'est quelque chose qui nous lie presque biologiquement ensemble, vous voyez ? Voilà. C'est d'ailleurs très intéressant que la Bible n'utilise pas pour le lien entre les chrétiens l'amitié. Tant mieux hein, s'il y a beaucoup d'amitié entre nous. Mais il n'utilise pas cela. Il utilise quelque chose de plus profond, de biologique ou de quasi-biologique. On est frères et sœurs. Hein. Vous êtes la lignée choisie. Et ensuite, il utilise le terme la communauté royale de prêtres. Donc les uns sont là pour les autres, et nous remplissons ensemble une mission pour le bien du monde, une communauté royale de prêtres, où chacun, petit, grand, visible ou moins visible, y travaille ensemble avec les autres pour que nous formions une communauté qui est au service les uns des autres et ensemble au service du monde. C'est magnifique, communauté royale de prêtres. Ce qui parle évidemment aussi de notre statut d'accès direct et libre au Seigneur. Ensuite, il y a la nation qui appartient à Dieu. Cette nation qui est avant tout caractérisée par le fait qu'on a la même loi. Voilà, on a les mêmes règles, on a la même loi et on est en quelque sorte sur le même territoire. Alors pour nous, ce n'est pas un territoire physique, hein, je ne sais pas d'où vous venez, hein, mais on sait tous que même si on aime notre pays d'origine, moi c'est la Suisse, mais bon, je suis plus français que suisse depuis longtemps, à part l'accent, mais on sait que ce n'est pas des terres saintes dans le sens physique, ça c'est fini depuis longtemps. Mais on appartient, on a la même loi, on a le même cadre, et on est donc en possession ensemble de cet endroit que Dieu nous donne, nation qui appartient à Dieu, et finalement le peuple qui l'a fait sien. Ce peuple, c'est des gens qui parlent la même langue, qui ont la même culture, qui se comprennent à mi-mot, parce qu'ils ont un peu ces mêmes références. On sent que Pierre, il veut vraiment englober tout en montrant que le salut est d'abord une question individuelle, mais pas que, nous sommes aussi une communauté. Et je crois que dans le monde actuel, pour annoncer l'Évangile, les deux dimensions sont très importantes. L'Église est donc le peuple à qui Dieu révèle sa grâce et sa gloire. Ça veut dire cela quand on parle de choisi. Ensuite, il y a cette expression de résident étranger. Il y a différentes traductions, mais je pense que c'est une des meilleures, si on regarde le grec, quand on traduit avec les mots d'aujourd'hui, résident étranger. J'aime beaucoup cette expression-là. Le résident étranger, ce n'est pas un touriste. Il y a des chrétiens qui parfois se comportent en touristes. Voilà. On vient, mais on reste à distance et on ne pose pas nos valises, vous voyez. On ne s'implique pas dans la vie locale. On est un peu dans d'autres sphères, on est touriste. Voilà. Et d'autres pourraient peut-être trop bien se fondre dans le monde actuel au point qu'ils oublient qu'on n'est pas citoyen de ce monde seulement, mais on est citoyen des cieux. Et le résident étranger, c'est celui qui a compris ces deux dimensions. Il a compris qu'il est citoyen des cieux, mais il sait que pour l'instant, ce n'est pas ça sa mission. Pour l'instant, sa mission, c'est d'être un résident étranger. Un résident étranger qui sait qu'il est dans le monde, mais qu'il n'est pas du monde. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il était complètement dans le monde, mais il avait une autre dimension, une dimension spirituelle, et c'est pour cela qu'il était dans le monde, mais pas du monde. Et c'est ça notre statut. En tant que chrétiens, nous sommes des résidents étrangers. Nous sommes au milieu des personnes et on n'est pas des touristes. Voilà. On vient, on repart, personne ne nous connaît complètement, etc. On s'implique dans le bien de la cité. On prend notre place pour aider les autres, pour vivre avec les autres, pour contribuer à la vie humaine. Nous sommes solidaires avec ce qui se passe dans notre ville, là où nous sommes. Voilà. On laisse le reste aux touristes. Mais nous, on n'est pas touristes. On est des résidents étrangers. Mais on n'a pas que notre vie présente à cœur. On sait qu'on a... On amène un morceau de la Jérusalem céleste ici au milieu de notre monde, vous voyez, parce qu'on a par l'Esprit de Dieu quelque chose de plus. Encore une fois, on ne va pas se prendre pour plus malin que les autres. Soyons humbles et soyons réalistes, mais Dieu nous a donné quelque chose d'irremplaçable et c'est ça, nous voulons que les gens puissent goûter à cela. Goûter au fait que nous aussi, on est malades. On meurt, on a parfois des échecs dans la vie professionnelle et autres, mais dans tout cela, nous avons quelque chose qui nous porte, nous avons une espérance et nous avons surtout le Seigneur qui est dans nos vies et qui nous aide au quotidien. Voyez, et notre monde a besoin de voir des témoins vivants qui vivent cela, comme des résidents étrangers. J'ai mis quelques phrases. Pour le résumer, l'Église, en tant que communauté de disciples, réunie quelques heures, comme nous le sommes là ce matin, et dispersée dans le monde le reste de la semaine, est le signe, l'avant-goût et l'instrument du royaume de Dieu. Nous avons cette mission de rendre, par notre vie quotidienne, par notre témoignage, par l'espérance qui est placée dans nos cœurs, nous avons vocation à être une espèce d'avant-goût et d'instrument du royaume de Dieu, parce que nous rendons Jésus visible. Une église missionnelle ressemble à Jésus, elle a son odeur, quand elle parle, cela sonne comme les paroles de Jésus et surtout, elle agit comme lui. Notre monde néo-païen a besoin de rencontrer des chrétiens et des communautés chrétiennes qui prolonge en ce sens-là ce que Jésus il a fait. Jésus dit « Je rends le Père visible ». Il nous donne le même esprit et par l'esprit, nous avons vocation à rendre Jésus visible. C'est une magnifique vocation. C'est ça l'évangélisation Ça l'a toujours été, mais aujourd'hui, peut-être, ça frappe plus les yeux encore parce qu'on est à nouveau dans cette situation d'un monde païen qui, quand on parle de Dieu, il sait pas trop. Et quand on parle plus en détail de Jésus, de la Bible, de l'Église, pour beaucoup, c'est des mots étrangers. Et chez pas mal de Français, ça réveille aussi une réaction négative. Hein. Faudrait pas, on le sait. C'est pour ça que ça ne met absolument pas en cause l'Évangile, je le redis, la pertinence de l'Évangile, mais ça met peut-être en cause un peu les moyens qu'on avait traditionnellement créés pour essayer de le transmettre. Je termine avec le troisième point dans ce texte. Donc, nous sommes choisis, nous sommes des résidents étrangers, non pas du monde, mais dans le monde. Et ça comme vocation, en semaine et quand on est réunis, et nous sommes donc enfin dispersés et envoyés. Il y a une très grande différence entre le fait de se sentir en quelque sorte malmené parce qu'on est dispersé, on aimerait qu'on soit déjà dans la Jérusalem céleste, ou de dire, Seigneur, ce n'est pas par hasard, c'est toi qui m'as dispersé dans le monde. Et donc j'accepte ça comme ma vocation. J'ouvre mes yeux sur les personnes que tu places autour de moi. Je ne suis pas en train simplement de subir ce monde méchant et ce contexte de Français souvent incrédule. Pas mettre tout le monde dans le même sac, parce qu'on rencontre des gens aussi qui posent de très très bonnes questions. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une grande différence entre le fait de se sentir simplement oublié, voire même malmené, ou de dire Seigneur, ce n'est pas par hasard, tu m'as dispersé dans cet endroit et je sais donc que je suis un ambassadeur, je suis un envoyé, tu m'as envoyé. Quand je visite des églises, je vois qu'à pas mal d'endroits encore, on est dans des méthodes d'évangélisation où des inconnus rencontrent d'autres inconnus. Alors, je ne suis pas dans le jugement, hein, mais j'ai quand même parfois cette inquiétude que finalement, on ne voit pas les gens que Dieu met autour de nous. Il serait tellement plus important qu'on ne s'adresse pas seulement à des inconnus, mais qu'on commence à ouvrir les yeux sur les 3, 4, 5 personnes avec qui finalement on passe beaucoup de temps en semaine. Parce que c'est peut-être notre boulanger, ou c'est peut-être quelqu'un qui profite de notre travail, ou c'est un cousin éloigné, ou c'est quelqu'un qui habite dans la rue, vous voyez? Moi, je voudrais encourager les églises plus que jamais à ouvrir les yeux parce que nous sommes des envoyés. Et ce n'est pas par hasard que nous rencontrons certaines personnes assez souvent, ou plus souvent que d'autres. Ce serait dommage de penser que l'évangélisation doit se faire dans des méthodes où finalement on parle à des gens qui ne nous connaissent pas. Surtout dans notre monde néo-païen, les gens, ils ont besoin de mettre en quelque sorte un visage, une personnalité sur celui qui leur parle de Dieu. Parce qu'ils veulent en quelque sorte un peu vérifier aussi si ce message, il est crédible, voyez. Ça, c'est une grande différence par rapport à ces siècles de chrétienté. On l'a dit, l'Église est le peuple à qui Dieu révèle sa grâce et sa gloire. Et donc, du coup, cette Église, elle est par la volonté de Dieu dispersée. L'Église est le peuple par qui Dieu révèle sa grâce et sa gloire au monde. La mission n'est pas seulement un aspect parmi d'autres de la vie de l'Église, mais au contraire, l'Église est de par son être le moyen principal de la mission de Dieu en faveur du salut du monde. L'Église missionnelle, et on en parlera avec ceux qui ont l'occasion de venir cet après-midi de manière un peu plus concrète aussi, pour voir comment on peut relier le temps de la semaine à celui des quelques heures où on est réunis. Mais l'Église missionnelle affirme que tous les chrétiens sont des chrétiens en mission dans chaque domaine de leur vie. Nous sommes dispersés par la volonté de Dieu et donc des envoyés. Je voudrais simplement préciser quelque chose. Je prends la liberté de le dire ici, comme ça. Beaucoup de méthodes d'évangélisation qui ont été développées dans les églises évangéliques sont très mauvaises. Elles sont très mauvaises. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont été pensées par des gens qui sont par nature des évangélistes qui, en quelque sorte, n'ont peur de rien et qui abordent tout le monde avec une très, très grande liberté. Et donc, du coup, on fait comme si tous les chrétiens devraient pouvoir faire ça. Et moi, je vois que ça inhibit beaucoup de chrétiens. Parce que les méthodes ne sont pas pensées pour les différentes variantes de dons et de personnalités. Il y a des extravertis, il y a des introvertis. Il y a des gens qui ont la parole facile, et il y en a qui ne l'ont pas, et pourtant ils ont une merveilleuse écoute. Et donc c'est important qu'une église apprenne aussi à annoncer l'évangile avec la pluralité des dons que nous représentons. Moi, je crois beaucoup au travail communautaire dans les petits groupes où, par exemple, les chrétiens invitent les amis pas encore chrétiens, où on partage, etc., pour que chacun puisse travailler avec ses dons. Et si vous dites, moi, je ne suis pas justement un extraverti par rapport à une méthode d'évangélisation très téméraire comme ça, moi, je ne m'y reconnais pas, oui, vous avez certainement raison. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut cultiver la fausse timidité. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il faut que chacun travaille avec ses dons. Et moi, je vois des églises qui grandissent par des conversions authentiques et ça avance parce qu'elles ont mieux appris à articuler les différents dons et les différentes un peu traits de caractère, etc. Donc il y a un temps où chacun de nous est dispersé dans le monde, où il travaille avec sa personnalité, avec ses dons. Et surtout, il permet en toute simplicité de rendre Jésus visible. Et ensuite, il y a un temps où la communauté réfléchit comment articuler tout cela. Pour que chacun puisse, avec le membre qu'il représente au sein du corps du Christ, hein, et il y a beaucoup de textes, ou plusieurs textes qui en parlent, comment chacun peut apporter sa contribution pour qu'en tant qu'Église, nous soyons véritablement une mission. Je termine avec un croquis. Je vais le refaire pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc je vais d'abord dessiner ici une Église. Une Église, c'est quoi? C'est d'abord une communauté de disciples. Les évangéliques le savent, ils le disent partout. L'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est les personnes. Et on a raison. Hein. Voilà. Après, c'est commode hein, d'avoir un bâtiment assez grand et bien placé comme le vôtre, c'est bien. Mais c'est un instrument. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord la communauté de disciples. Et justement, il y a un temps où le disciple il est dispersé dans le monde, où il est un témoin avec les dons qu'il a, et il a les quelques personnes justement auxquelles il a intérêt de s'intéresser parce que c'est Dieu qui les a placés autour de lui. Et donc une communauté de disciples, c'est d'abord cela. On est reliés, on a besoin les uns des autres et on a un certain nombre d'heures par semaine où on est témoin là où Dieu nous a placés, dans tel bureau, dans telle usine, dans telle famille, etc. Et ensuite, il y a le temps où nous regardons ensemble le Seigneur pour le remercier, puis aussi pour nous encourager mutuellement. Et voyez-vous, dans certaines églises, on est parfois involontairement un peu dans ce regard-là. Je ne veux pas être sévère parce que ça procède souvent du fait qu'on aime notre église. Et donc, on voudrait tout améliorer, hein. On veut améliorer l'école du dimanche, on veut améliorer les moments où on est réunis. Donc, je comprends très bien l'intention, je la trouve bonne, mais ça manque de vision. Quand vous êtes dans une église uniquement en train de vous poser des questions par rapport à notre fonctionnement, ça manque de vision. Et je voudrais vous encourager à cultiver en particulier ce qui me semble être l'objet même, ou on pourrait dire la nature même de l'Église. L'Église, elle est d'abord là pour rendre Jésus visible, qu'elle soit dispersée en semaine ou réunie pour quelques heures. Dieu a tant aimé le monde. Et nous devons prendre notre place. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et vous ne réfléchissez pas de la même manière, et cet après-midi, quand on aura un petit peu de temps, on va discuter de cela, vous ne réfléchissez pas de la même manière si vous réfléchissez à l'Église comme si elle était uniquement là pour les chrétiens. Heureusement qu'elle est là et ça nous apporte beaucoup. Mais l'Église, c'est plus que ça. L'Église fait partie de la mission de Dieu, cette mission de Dieu qui continue par le Saint-Esprit pour le salut du monde. Et Dieu nous place dans ce monde néo-païen, si on est en France, en 2023. Et nous devons donc discerner quelle est ma place en tant qu'individu et quelle est notre place en tant que communauté pour participer à cette mission de Dieu afin qu'il y ait de plus en plus de disciples. Et voyez-vous, ça a une influence sur nous-mêmes, ça a une influence sur tout ce que nous faisons en communauté, parce que la mission, en ce sens, fait partie de notre nature. Nous sommes choisis. Nous sommes des résidents étrangers dans ce monde et nous sommes chargés d'une mission, nous sommes dispersés et envoyés. Et c'est un magnifique appel, et je termine avec cela, qui nous dépasse. Je ne sais pas qui de vous est capable de faire cela. Moi, je ne suis pas capable, je le sais. Et c'est précisément ça qui me fait grandir. Parce que j'ai besoin, pour moi-même, pour mes voisins, pour les amis non chrétiens au milieu desquels le Seigneur m'a placé, j'ai besoin de son aide. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, d'être aussi dans la repentance lorsque je n'étais pas là où il fallait, je n'étais pas à la hauteur ou je n'étais pas assez sensible, voyez. Et c'est ça qui fait aussi grandir le disciple, quand il est conscient qu'il est choisi, merci Seigneur, qu'il est résident étranger, c'est la situation que j'accepte, je veux être au service des autres, et quand je suis conscient que je suis dispersé et envoyé. Que le Seigneur vous bénisse.